France Inter.
On savait avant qui était le meilleur boxeur, qui était le meilleur karatéka, qui était le meilleur lutteur. Là, on sait qui est le meilleur lorsque toutes les techniques sont autorisées.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un numéro un peu spécial cet après-midi de Zoom Zoom Zen, puisque si vous nous suivez en vidéo sur le site de France Inter, alors vous vous posez certainement la question... Pourquoi Cyril et Quentin sont-ils torse nu, le corps huilé, les muscles bandés et la coquille bien fixée sous le short? Et pourquoi s'exclament-ils en faisant de drôles d'assouplissements? Nos deux compères auraient-ils décidé de régler un contentieux éditorial à coups de kick dans la glotte? Grand Dieu non, c'est juste qu'aujourd'hui on a décidé de zoomer sur un phénomène nommé Free Fight. Le MMA est le plus connu de ces combats libres, vous entendez souvent ces termes, UFC, MMA, Octogone, mais de quoi on parle exactement? Le free fight, désormais autorisé en France, et on va voir que c'est assez récent, est-il vraiment si free que ça? Ou bien y a-t-il quand même quelques règles? Est-ce un sport 100% viriliste et macho à rebours de l'évolution de nos sociétés? Ou bien au contraire, une discipline étonnamment en avance sur les questions d'égalité homme-femme? À coup sûr, le free fight et le MMA nous réservent bien des surprises, alors... Pas autant que celle que j'ai eue ce matin en voyant Cyril débarquer au bureau torse nu en criant « Mais des surprises quand même. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Guillaume Dussault.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes journaliste sportif, fondateur et rédacteur en chef du média La Sueur, qui annonce un peu la couleur.
Exactement.
Vous avez lancé un podcast du même nom et il y a un autre podcast, KO, hébergé sur le site du quotidien L'Équipe. Vous êtes donc, on peut le dire... Le spécialiste des sports de combat.
Exactement.
Vous êtes le spécialiste numéro 1 en France.
Exactement.
Est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Alors vous allez nous expliquer, Guillaume, pourquoi cet attrait pour les sports de combat extrêmes. Le temps de vous présenter deux journalistes qui étaient beaucoup plus dans leur élément lors de notre émission sur la Formule 1. Il faut dire qu'entre Manon Mariani et l'automobile, c'est une longue et belle histoire.
Oh là là.
Tout commence durant un séjour thématique Schnouf et Montalcino en Toscane. Dans son groupe d'amis, Manon est la seule à avoir le permis, encore elle l'a eu si récemment, que pour dire qu'elle passe la première, elle dit, je cite, « Je passe en vitesse 1 ». Alors déjà, ses potes auraient dû se douter que ses capacités à conduire n'étaient pas optimales. Et voilà qu'au milieu d'une pente, la merco de location de Manon, car oui, chez les Mariani, il y a du pognon, non seulement n'avance plus, mais recule. Dans le véhicule, c'est la panique. Manon hurle sur Emmerich, comme s'il était responsable du fait qu'elle n'appuie pas sur la bonne pédale. Emmerich hurle sur Manon, qui, voyant le ravin approcher, ferme les yeux, ce qui n'est jamais recommandé au volant. Heureusement, c'est là qu'interviennent des touristes belges, qui, voyant Manon en fâcheuse posture, décide de lui prêter moins forte. Alors, on n'a pas l'enregistrement audio, bien sûr, mais très certainement, les types doivent baisser la vitre et dire...
Eh ben alors, gamine, t'as pas toutes les frites dans le même cornet, toi? Tu veux un coup de main, une fois?
Au-delà de la qualité de l'imitation, on retiendra la grandeur d'âme de ces touristes belges, tout ça est vrai, qui ont su voir la détresse dans les yeux de Manon, alors même qu'elle les avait fermés. Bilan, Manon n'était pas en vitesse 1, mais hélas, en vitesse 3, ce qui, fatalement, en côte, ne pouvait pas fonctionner. Manon, vous me disiez, le free fight, je m'y connais à peu près autant qu'en bagnole.
Vraiment autant. Non, je sais qu'il y a juste un club à côté de chez moi, il y a toujours des mecs un peu musclés, du coup, je vais sur la terrasse d'à côté.
D'accord, vous regardez ça de loin, mais quand même d'un œil intéressé. Alors maintenant, il y a une discipline dans laquelle vous ne calez jamais, c'est l'analyse des réseaux sociaux. Aujourd'hui,
je vais vous parler d'un acteur de 47 ans qui a totalement conquis les réseaux sociaux, sa tête est partout, il est même surnommé le daddy d'Internet. Spoiler, ce n'est pas Cyril. De qui s'agit-il? Réponse dans ma veille sanitaire.
Moi, je sais, spoiler, j'avais déjà craqué pour lui dans Game of Thrones. À ma droite. Quoi? Et alors, Cyril, on a le droit d'être ouvert à toutes les sexualités. À ma gauche, quel dommage. En temps normal, j'aurais épilogué sur son goût pour les sports de combat, surtout ceux qui impliquent de porter une combarde bien moulante. J'aurais levé le voile sur son passé de catcheur dans l'Orne. Hélas, Quentin, ayant explosé le record du monde du plus long lancement à l'instant sur les tribulations de Manon en Toscane, j'ai plus le temps, à part vous dire. Alors, les gens dans la rue, ils connaissent le MMA?
Ah, ça tombe bien, pour une fois, c'était pas dans la rue. Super prépa d'émission.
Comment ça, c'était où?
Je me suis fait inviter dans un cours de MMA dans un lieu qui s'appelle la Free Fight Academy.
Pas mal.
Autant vous dire qu'ils vont se souvenir de mon passage.
Vous avez marqué les esprits.
Attention.
Aucune règle, une prime à la violence et un arbitre non interventionniste. Vers 16h30, vous découvrirez, Guillaume, l'autre nom du MMA à France Inter, le Zoom Zoom Test. Et puis en fin d'émission, Yann Marguet viendra nous livrer son regard sur le Free Fight. Alors déjà, Guillaume Dussault, qu'est-ce qui fait le plus mal? Est-ce que c'est une droite de Mike Tyson, parce que moi c'est mon combattant de référence, ou un coup de genou de ce Conor McGregor, cet ancien champion de MMA qu'on voit tout le temps sur YouTube. Il me propose toujours des vidéos.
Bah, j'ai envie de vous dire que c'est kiff-kiff. Hein, parce qu'une droite de Mike Tyson, quand il combattait, il pesait plus de 100 kilos. Conor McGregor, quand il était dans ses meilleures années, il combattait à 66 kilos. Donc pour les deux, ça fait très très mal. Je pense que personne ne peut comparer, personne ne veut se prendre l'un des deux coups, mais les deux doivent faire très mal. Ouais.
Alors, il a replacé sa coquille qui avait ripé durant le passage sur Manon en Italie. Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, de rire. Notre rédacteur en chef m'a l'air prêt à l'emploi. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et
chaque après-midi, c'est vous qui nous racontez l'histoire de notre mot du jour. Alors, dites-nous, le free fight, d'où ça sort?
C'est au Brésil que commence cette histoire. Nous sommes dans les années 20, 1930 également, et la pratique de ce free fight porte un autre nom à l'époque.
Vale tudo.
Je vous le remets.
Vale tudo.
Un terme portugais qui signifie tout est permis, et c'est vrai que tout est permis. Le
vale tudo.
C'est un sport brutal, sans règles. Et dans les années 20, il devient un véritable phénomène au Brésil, puis dans toute l'Amérique du Sud. Quant au free fight, il faudra en fait attendre les années 90 pour le voir émerger, et là encore, tout est possible. Coup de poing, coup de pied, projection, frappe au sol, et bien sûr, la soumission. C'est en 1992 que le premier...
Il le dit avec gourmandise.
Ah là là, vraiment. C'est
gourmandise, ça
Ça peut tomber sous le coup de la loi. C'est en 1992 que le premier événement de free fight officiel est organisé. Nous sommes en Belgique et devinez qui l'organise.
L'être humain, en général, dans la vie, réacte. On réacte, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on est supposé faire. Travailler, manger... Je m'excuse l'expression « chier ».
Et oui, JCVD, Jean-Claude Van Damme, est le promoteur de ce premier combat officiel de Free Fight.
Et comment c'est devenu le phénomène qu'on connaît aujourd'hui?
C'est aux États-Unis que ça se passe, nous sommes toujours dans les années 90, et c'est avec la création de l'UFC que le Free Fight devient un sport mondial. L'UFC devient le principal promoteur de la discipline. Ses combattants acquièrent des réputations de mecs violents et dangereux, et au sein de l'UFC, c'est bien sûr le MMA qui va devenir le porte-drapeau de ces combats, où presque tout est permis, car oui, le temps du
vale tudo
est terminé. Maintenant, même dans le free fight, il y a des règles. Est-ce que ça dénature l'esprit même des origines? On va en parler durant une heure.
Merci beaucoup Cyril et bravo, c'est pas donné à tout le monde de maîtriser l'anglais et le portugais.
Vous avez vu,
vous l'avez fait.
Éblouissant.
Et Guillaume Duzo, on se replonge donc un peu en arrière avec vous, avec l'apparition de ce tout est permis au Brésil dans les années 20. C'est ça qui change la donne, c'est vraiment ça la naissance du free fight.
Non, ce qui change vraiment la donne, c'est exactement la création de l'UFC en fait, aux États-Unis, qui permet d'apporter le côté business au sport, qui fait qu'aujourd'hui l'UFC, c'est l'équivalent de la NBA pour le sport qu'est le MMA. Et aujourd'hui d'ailleurs, Free Fight, on n'en parle plus vraiment. Mmh. En fait, Free Fight, c'est une appellation.
C'est général.
Le sport, c'est exactement, le sport, c'est le MMA.
La boxe était apparue au milieu du 19e siècle, c'est devenu le noblard au fil du temps, un sport de gentleman presque, quelque part. Est-ce que ces sports de combat extrême se sont construits en opposition à ça? C'est-à-dire une image plus sulfureuse des combattants, et c'est aussi plus vendeur peut-être?
Pas vraiment, c'était... La création, on va dire, et puis la croissance de ces sports-là, c'était en parallèle de la boxe. Et ce qui s'est passé avec la boxe, c'est qu'il y a eu toujours plus d'argent, et les combats que les gens voulaient voir, aujourd'hui, on ne peut plus les avoir. Et
alors, pourquoi?
Parce que, en gros, si vous voulez, en MMA, vous êtes signé par une ligue, l'UFC. Et à partir du moment où vous êtes signé à l'UFC, par exemple, j'ai envie de vous affronter, vous. Le président de l'UFC va dire, bah, on organise le combat, c'est parti. Et on n'a pas vraiment le choix, le combat va se faire. D'accord. Et si les gens veulent voir ce combat-là, il va se faire. Alors qu'en boxe, tout le monde est son propre patron. Ce qui fait que pour les Mike Tyson contre Evander Holyfield, par exemple, il a fallu attendre des années pour l'avoir. Alors qu'en MMA, les gens ont les combats qu'ils ont envie de voir. Et ça s'est vraiment fait en parallèle. Et aujourd'hui, la boxe est vraiment sur le déclin parce qu'on met des années à voir les combats, alors qu'à l'UFC, dès que les gens veulent un combat, dans les 6 mois, dans l'année maximum, le combat est fait.
Pardon, mais je ne savais pas ça. Comment vous expliquez que la boxe, du coup, n'ait pas repris le modèle du MMA pour offrir les combats que les gens ont envie de voir en mettant les boxeurs sous contrat aussi?
Parce que justement, c'est aujourd'hui ce qui fait la différence entre l'UFC et le MMA, c'est que entre la boxe et le MMA, c'est justement les salaires. Et aujourd'hui, en boxe, si vous êtes un Tyson Fury, un Anthony Joshua, un Canelo Alvarez pour les plus connus, vous n'avez pas, ou même un Floyd Mayweather, vous pouvez gagner 180 millions de dollars par combat. Et forcément...
Par combat.
Et donc forcément...
C'est plus que le salaire annuel de Cyril Lacarrière.
Ah, oui,
sur un combat, Cyril, vous vous rendez compte? C'est hallucinant.
Une moitié d'année. Voilà,
d'année. En MMA, ça gagne beaucoup moins?
En MMA... Un Conor McGregor, qui est la plus grande star que tout le monde connaît, il va gagner au maximum 40 millions. Donc ça reste des sommes folles, mais c'est beaucoup moins que lorsqu'un boxeur combat. Et c'est pour ça d'ailleurs que Conor McGregor a voulu faire de la boxe, parce que quand il a fait son combat en boxe anglaise, il a gagné 100 millions de dollars, ce qu'il n'aurait jamais pu avoir en MMA, alors qu'il y avait tout autant d'attractivité.
Ah oui, bah, l'espace d'un instant, j'ai eu peur, parce que j'ai vu quand même que Conor McGregor avait beaucoup de Rolex. Oui. J'avais dit comment il avait fait pour se les procurer. C'est quand même assez rassurant. Est-ce qu'on peut distinguer un meilleur combattant de MMA du monde, là, aujourd'hui, à l'heure H, ou est-ce que c'est plus compliqué qu'en boxe?
Non, aujourd'hui, alors, et c'est ce qui est très important avec le MMA, justement, c'est pas tout est permis, c'est, on empile les arts martiaux. Ce qui fait que vous allez avoir un boxeur, va pouvoir faire de la lutte, va pouvoir faire du judo. L'art martial numéro 1 en MMA, c'est la lutte. Parce qu'avec la lutte, vous pouvez dicter là où va le combat. Alors qu'en boxe, vous pouvez donner des coups, c'est ce qui est le plus spectaculaire, vous allez voir les KO, mais si, moi, j'arrive à vous mettre au sol, je vais gagner le combat. Et aujourd'hui, les meilleurs combattants
sont d'abord des lutteurs.
Et donc aujourd'hui, on peut dire un Ramzat Chimaev est considéré comme le meilleur. Voilà.
Tout est question d'homologation. Longtemps, le MMA a été interdit en France, on va en reparler. Il n'a été homologué qu'il y a 3 ans. C'est pareil en musique. En attendant que les nouvelles chansons de Renaud, dont Coronavirus, Connard de Virus, soient homologuées, je vous propose pour patienter qu'on s'écoute Laisse Béton, hein, Renaud sur Inter.
J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar. A commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi. Puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit Laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole. M'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar. A commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mec, ton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron. M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard. Je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale. M'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Zoom aujourd'hui sur le free fight, le MMA plus précisément. Pourquoi la violence nous fascine-t-elle tant? Moi, par exemple, c'est vrai, j'avoue, j'étais partagé entre la stupéfaction et l'admiration le jour où, à la cantine de Radio France, Cyril Lacarrière a remis à sa place un individu qui lui avait suggéré de prendre le steak de tofu végé.
Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Et contrairement au steak de tofu, le MMA a longtemps été interdit en France et ça a été légalisé, j'ai lu ça, il y a 3 ans seulement. Le premier combat, c'était le 8 octobre 2020. Pourquoi autant de temps alors que ces combats s'organisaient normalement ailleurs dans le monde, Guillaume Dussault?
C'est à partir du moment où le MMA entre dans un pays, énormément de gens se mettent à faire du MMA, parce que si aujourd'hui vous vous mettez à faire du MMA, vous allez faire du judo, vous allez faire de la lutte, vous allez faire de la boxe anglaise, vous allez faire de la boxe thaï. Et en France...
Attendez, je vous arrête là pour bien comprendre. Ouais. Vous dites ça, je comprends, mais est-ce que ça veut dire qu'on va s'inscrire dans différents clubs pour apprendre ces sports individuellement, ou est-ce que si on s'inscrit dans un club pour du MMA, dans ce club-là, notre prof, il va nous apprendre à faire tous ces sports
Exactement.
En un seul?
Comme le MMA, c'est tous les sports de combat, si vous voulez, votre coach va vous apprendre à faire un petit peu tous les sports. Et comme en France, on va dire, on est très présent sur le judo. Oui. Il y a eu un certain lobbying pour faire en sorte que le MMA soit un petit peu retardé et l'arrivée du MMA en France soit un peu retardée. Et aujourd'hui, on a vu, le MMA est légalisé, normalisé depuis février 2020, premier événement octobre avec le coronavirus qui est passé. C'est une vraie déferlante, puisqu'aujourd'hui, Cyril Gann, qui est la figure de proue du sport en France, est hyper connu. Et l'UFC en France, quand ils sont arrivés en septembre dernier, c'est la plus grosse billetterie de l'histoire de Bercy, ce qui est immense.
Mais si ça a explosé comme ça, c'est peut-être que que ça se pratiquait de manière un peu clandestine avant déjà, non ?
Ah, y avait le droit de pratiquer, il y avait le droit de
s'entraîner.
Oui, s'entraîner. Oui, les clubs de MMA étaient autorisés, c'était juste la pratique professionnelle. Les combattants étaient obligés de combattre à l'étranger, ce qui a aussi tout changé pour eux, parce que on passe d'être athlète professionnel et de combattre toujours à l'extérieur sans avoir de fans, sans avoir de supporters, à combattre à la maison, et là ça change tout.
Est-ce que le côté pas de règles, bien qu'il y en ait en fait, on a compris, mais le côté comme ça de loin pas de règles, ça donnait une mauvaise image en France. Par exemple, même moi, dans mon petit lancement, pour dire une connerie, je suis fait un rapport avec l'ultra-violence. C'est pas forcément un sport plus violent que les autres, c'est juste des règles différentes.
Exactement. En fait, les deux choses qui peuvent choquer, et qui ont choqué mes parents aussi quand j'aurais parlé pour la première fois de MMA, c'est un, la cage,
oui,
deux, le
fait... Ça fait peur, ça.
Exactement. Et deux, de frapper un homme à terre, un homme qui est au sol. Ouais. La cage, pourquoi la cage ? C'est tout simplement pour protéger les athlètes, parce que comme il y a des projections, comme il y a des KO, en boxe, ça peut arriver, les gars passent à travers les cordes. Mmh. Et comme en MMA, il y a beaucoup de projections, avec la cage, vous n'avez pas ce danger-là. Et deuxième point aussi, c'est frapper un homme à terre. Comme il y a du judo et du jiu-jitsu, si vous n'autorisez pas ça, par exemple Teddy Riner qui passe en MMA, si on ne peut pas le frapper quand il est à terre, il va gagner tous ses combats.
D'accord, mais, donc c'est une règle de bon sens.
Mais justement, quelles sont les règles vraiment ? Qu'est-ce qui est interdit ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on remporte un combat pour les gens qui ne connaissent pas ?
Donc les gens peuvent remporter le combat comme en boxe, à la décision. Donc ça va être celui qui va avoir mis le plus de coups dans le combat.
Donc il y a un arbitre ?
Exactement, oui, il y a un arbitre forcément. Donc celui qui aura mis soit le plus de coups, soit qui aura eu le plus de contrôle sur l'adversaire. Par exemple, moi je vais faire une prise de judo ou une projection en lutte. Je maintiens l'adversaire au sol sur un round qui dure 5 minutes. J'ai remporté le round. Soit c'est par KO, comme en boxe aussi, comme en kickboxing, comme en muay thai, ou alors par soumission. Donc là, ça va être comme au judo, par exemple, avec une clé de bras, ou en JJB, une clé de bras, une clé de jambe, un étranglement.
Mais ça peut aller très vite. Oui. Quelqu'un qui va maîtriser quelqu'un au sol en un match, ça dure combien de temps ?
Pas de chiffres, on va le voir les timings dans le Zoom Zoom Test.
Ah, bon. Ben on verra.
Spoiler.
Ça peut aller
mais
vite.
Ça peut aller vite.
Ça peut aller très ça peut aller très, très vite, oui.
Pourquoi l'octogone ?
Ça, c'est l'UFC qui est venu avec l'octogone, justement. Mais après, toutes les organisations peuvent avoir une cage avec le nombre de côtés qu'ils souhaitent. Ouais.
C'est aussi un peu vous faire gladiateur des temps modernes, ou pas ?
Alors, il y a cette appellation-là. Certains combattants revendiquent cette appellation-là, mais globalement, aujourd'hui, on est vraiment dans une volonté d'être un sport à part entière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, selon toute vraisemblance, le MMA devrait arriver au JO 2028.
Oh. Ben, ça serait, finalement, quand je vous écoute, en tout cas, forcément, vous faites la promotion de ce sport, mais assez logique, parce que ça a l'air d'être complet et plein de surprises. C'est-à-dire qu'en boxe, on sait qu'on va prendre des coups de poing, mais là, on peut s'attendre à tout de l'adversaire et soi-même, on peut être créatif dans la discipline qu'on va utiliser face à lui.
Exactement. Et ce qui est important aussi, et oui, c'est parce que vous dites, ouais, je fais la promotion du sport. Mais ce qui est très intéressant avec le MMA et ce qui explique aussi son succès, c'est que tout le monde peut parler du MMA de la manière dont il le souhaite. Quand je dis ça, c'est à l'UFC, vous allez regarder par exemple les joueurs du Paris Saint-Germain, les joueurs NBA, c'est un petit peu aseptisé. C'est très rare qu'ils aient tel ou tel discours. Alors qu'en MMA, les athlètes, on leur dit, vous avez libre cours à tout ce que vous pouvez mettre en avant et le discours que vous souhaitez. Par exemple, Cyril Gane, c'est un vrai exemple pour le sport en France. C'est l'ambassadeur parfait pour le sport. Il insulte jamais personne, il est toujours souriant. Conor McGregor, lui, c'est l'inverse. Mais sauf que les deux sont les figures de proue du MMA mondial, on va dire. Et pour l'UFC, ils sont tout aussi importants. Et c'est hyper rare dans les sports d'avoir ce genre de promotion.
Mais pourquoi c'est leur philosophie à l'UFC ?
Parce que justement, l'UFC, ils ont compris quelque chose qui est, à mon sens, très important. C'est qu'en France, on a cette approche de dire on est assez humble avec les sports. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Cyril, ça fonctionne très bien pour lui en France. Par contre, aux États-Unis, on aime bien afficher ses ambitions. Ouais. Et donc, Conor McGregor est une star aux États-Unis. Et donc,
mieux.
L'UFC ont compris que, ok, c'est important le
en
sport.
En fonction des cultures.
Et le business aussi est très important.
En un mot, pourquoi la cage ? Il y a quelque chose de très bestial quand même. Pourquoi une cage ?
C'est vraiment pour ça. Alors, ce qui est important avec la cage, c'est qu'au Japon, il y avait avant une très grande organisation qui s'appelait le Pride, qui était le concurrent direct de l'UFC, et ça se faisait dans un ring. Et aujourd'hui, au Japon, ça se fait toujours dans un ring. Donc, on peut soit faire ça dans un ring ou dans une cage, mais la cage, c'est vraiment pour éviter que les gars passent à travers
les cordes. Une question technique.
Ouais.
Face à vous, justement, Guillaume, alors lui non plus n'a pas de règles. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à faire appel à des comédiens pour enrichir son micro-trottoir de témoignages chocs. Aujourd'hui, il ne serait pas étonnant qu'au détour d'une rue du 16e arrondissement, il soit tombé par hasard, nez à nez, sur Conor McGregor. Hey Conor, is that bien you? Of course, buddy. I was just doing my shopping at Franprix. What a coïncidence. Oh, life is crazy. Alors, dites-nous, Quentin, outre l'Irlandais que vous avez chopé à la sortie d'un pub et à qui vous avez demandé d'imiter Conor McGregor pour 10 euros, que vous ont raconté gratuitement les vrais gens au sujet du MMA ?
Déjà, je suis allé dans un vrai lieu. C'était hier soir.
Et ça vous arrive pas souvent.
Paris, 13e arrondissement, à deux pas de la Porte d'Ivry, je sonne à l'interphone d'un gymnase.
Appel en cours.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est Quentin Louis de France Inter. J'ai rendez-vous à la Free Fight Academy.
Oui, entrez, allez-y, c'est ouvert.
Je longe un long couloir à l'éclairage froid. Je passe au vestiaire pour me changer. J'arrive dans cette salle où les tapis de gymnase sont posés au sol. On est une quinzaine, beaucoup d'étudiants. Voici notre prof.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Nicourt. Je suis un des premiers champions français de MMA. Et j'ai créé la Free Fight Academy, qui a été aussi un des premiers clubs de MMA en France. Et aujourd'hui, on est dans un cours ouvert à tous.
Et je lui demande pourquoi le MMA a autant la cote.
Parce qu'il réalise le rêve de tous les pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat. C'est-à-dire qu'on savait avant qui était le meilleur boxeur, qui était le meilleur karatéka, qui était le meilleur lutteur. Là, on sait qui est le meilleur lorsque toutes les techniques sont autorisées.
On va donc savoir qui est le meilleur. Bon. Il m'équipe les gants. Déjà, on commence par les gants. Des mitaines rembourrées qui permettent quand même d'attraper l'adversaire, protège tibia, coquille et protège dents.
Les gars, on est un pair. À chaque fois, les exercices, on va en faire deux. Au deuxième, il y en a un qui sort et celui qui était dehors rentre. Ok ? Prêt ? Go !
Je vous jure qu'à ce moment-là...
C'est la musique des Avengers
derrière. Oui, je sais vraiment... Je sais pas ce que je fais là, à ce moment-là. C'est un peu comme si on envoyait Manon au salon du mariage.
Ou
Cyril, notre rédacteur en chef, faire un de ses célèbres d'où ça sort dans un concours d'éloquence. Ce serait pareil. Par quoi on commence ?
Ce que j'aurais envie de t'apprendre, c'est... Je vais essayer de partir de l'idée de... T'es dans une situation où tu dois être efficace vite en combat. Je vais essayer de te montrer un enchaînement de frappes de base qui va te permettre de rentrer en lutte, c'est-à-dire aller attraper ton adversaire, aller attraper les jambes de ton adversaire pour l'emmener au sol.
Bon, oui, d'accord, mais je me pose quand même une question sur la place des femmes dans ce sport. Là, nous sommes une vingtaine de mecs, hein, pas une femme à l'entraînement.
Alors, ça arrive qu'il y en ait. Là, il n'y en a pas ce soir. Elles sont très minoritaires, mais on en a. Ouais. On en a. Là, on a une compétition le week-end prochain et j'ai une fille qui va participer en compétition. C'est vrai que, bah, comme tous les sports réputés un peu durs, les femmes sont réticentes dans un premier temps. Il y a eu ça avec la boxe thaï, pendant que la boxe thaï était considérée comme le sport ultime. Maintenant, nous, on a une section boxe thaï au club où il y a énormément de femmes.
Allez, c'est bon, je suis bien chaud. Je vous présente mon binôme. Dreadlocks, tatouage et sourire jusqu'aux oreilles. Bonjour.
Salut.
C'est quoi ton prénom ?
Tu peux m'appeler Nounours.
Nounours. Tu mesures combien ?
1m80. Ouais.
Pour combien de kilos ?
82, 83.
Autant vous dire qu'il y a un léger écart.
J'étais plus dans un club libertin, non ?
Mais non, pas du tout.
Vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé ?
Il y a des surnoms comme ça, un petit peu,
d'accord.
Dans le MMA.
Oui, complètement.
Bon, Nounours, d'accord.
Je lui demande comment il a commencé.
Moi, j'ai commencé à cause d'un film qui est passé à la télé, Never Back Down. Et du coup, à mes 16 ans, je me suis dit que ce serait bien de faire le même sport. Et comme ce n'était pas connu, donc, j'ai eu du mal à trouver. Je me suis un peu renseigné et puis j'ai trouvé une salle intéressante, un bon prof et j'ai commencé.
Il a commencé à 16 ans, il en a 28 aujourd'hui. Il regrette la légalisation tardive des compétitions en France.
Oui, quand même. Et puis ça se voit au final que même dans les combats, c'est-à-dire quand on regarde les combats internationaux, on voit que les Français, ils sont tout nouveaux sur le terrain. Donc ils n'y connaissent rien, ils se font niquer. Désolé, mais c'est la vérité. Et puis comparé à des gens qui ont l'habitude comme John Jones ou peu importe, ils ont l'habitude de la cage, ils ont l'habitude des règles, ils ne sont pas là pour rigoler, comme il a dit. Alors que Cyril, il est nouveau, c'est pas pour dire qu'il n'a pas fait des combats, mais en termes de combats dans la cage, ils n'ont pas le temps.
Il fait référence à Cyril Gane et à son dernier combat le 5 mars dernier, rapidement perdu face à John Jones. Juste à côté de nous, il y a un binôme qui s'entraîne et il y a le prof qui revient me décrire ce que je vais devoir faire.
Là, tu vois, il y en a un qui a amené son adversaire au sol, il a une position très avantageuse, là il a pris une position montée. Et donc, il va essayer de le maintenir comme ça jusqu'à ce qu'il réussisse à le soumettre ou qu'il l'oblige à abandonner avec les frappes.
Du coup, il y a une vraie stratégie.
Oui.
Pour l'emmener sur des terrains où on est mieux.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est la particularité du MMA. C'est ça qui fait qu'il a un attrait supplémentaire. Il y a des stratégies et des oppositions de style.
Alors, là, avec mon nounours, on va essayer ensemble de s'entraîner. Autant vous dire qu'il a vite pris le dessus. Plaquage au sol, je ne pouvais plus bouger. C'est bon.
Merci les gars, fini pour aujourd'hui. France Inter est toujours vivant.
Il est vivant, mais je pense que le MMA doit rester pour moi une assurance. La MMA pour qu'elle me ramène en ambulance.
Zoom. zoom aujourd'hui sur le MMA. On vient d'entendre dans cette immersion, dans un cours, c'est quand même assez intense. Nounours qui nous dit « On voit bien qu'avec la légalisation sur le tard, les Français en compétition, ils y connaissent rien, ils se font niquer. » Alors là, tout de suite, la réaction en studio de Guillaume Dussault. Pas du tout, ils se font pas du tout niquer, nos Français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Non, je suis choqué, outré des propos de Nounours.
Alors, répondez-lui.
Parce que les Français aujourd'hui sont vraiment très bien en MMA. Pour un sport donc, qui a été normalisé en février, premier événement en octobre, aujourd'hui on a Cyril Gann qui est classé numéro 2 dans la catégorie heavyweight, qui a perdu, certes rapidement, mais contre
Jones. Il a perdu un match contre le meilleur, mais
exactement.
Il est numéro 2, c'est énorme.
Il est classé numéro 2 mondial et il a perdu donc contre le meilleur qui s'appelle John Jones. Voilà, c'est lui le vrai meilleur de la catégorie et tout le monde perd contre John Jones. On a Manon Fiorot qui est classé numéro 2 chez les flyweight, donc moins de 57 kilos à l'UFC. On a Nassourdine Imavov qui est dans le top 15 mondial chez les moins de 84 kilos.
Oui, donc on est bien.
Et il y a une pépite qui s'appelle Saladin Parnasse qui monte aussi très fort. Donc en seulement 3 ans, je trouve que c'est pas mal.
Quentin ?
J'aime beaucoup quand Mathieu, le prof, parle de stratégie et de l'ouverture des champs des possibles, de combinaisons à envisager. Ça me fait penser aux échecs. C'est aussi ça que ça a apporté le MMA.
Ouais, complètement. Parce que l'avantage du MMA, c'est que c'est vraiment un sport où vous avez deux spécialistes de stratégies et disciplines différentes qui vont se retrouver pendant soit 15 minutes, soit 25 minutes, et on va voir qui va prendre le dessus. Quand il y a le lutteur, il doit mettre la main sur son adversaire, et celui qui est debout, par exemple Cyril Gann, qui est un expert de Muay Thai, son objectif, c'est de danser autour du ring pour ne pas être touché, pas être attrapé par l'adversaire. Et du coup, la stratégie est hyper importante en MMA.
On continue à décrypter ce phénomène MMA dans Zoom Zoom Zen avec notre invité Guillaume Dussault. On osera même la question un peu tabou, peut-on inscrire ses enfants au MMA ? Y a-t-il d'ailleurs une fédération amateur dans laquelle les enfants peuvent s'inscrire ? Vous nous direz ça. Restez avec nous car en voici un autre que j'aurais pas aimé croiser dans un octogone. Bernard Lavillier sur Inter, le piéton de Buenos Aires.
Je marche seul dans Buenos Aires. Personne ne demande qui je suis. Dans cette ville, dos à la mer, qui vibre encore de l'Italie. Je marche seul dans Buenos Aires. Je sais que je n'ai rien compris, mais cette odeur m'est familière, comme un secret jamais écrit. Buenos Aires, un port à l'envers, où les marins restent à leur bord. Les Argentins rêvent d'hier, et puis des chants du mal d'aurore. Dans le carré de tes artères, américaines dans l'esprit. Des transversales singulières me disent André, si tu me suis, je te prouverai le contraire. Si tu pénètres dans ma nuit, je marche seul dans Buenos Aires. Personne ici m'explique ce que je dois y faire. Je sais pourquoi je suis ici. Je marche seul dans Buenos Aires, qui s'étale comme la lune, en croissant au bord de la mer. Et se réfugie dans la brume. Elle est belle, elle a ses mystères, et sa tendresse pour celui qui n'élève la voix ni le fer. Elle sait pourquoi, elle sait pour qui. Dans le carré de tes artères, américaine dans l'esprit. Des transversales singulières me disent hombre, si tu me suis, je te prouverai le contraire. Si tu pénètres dans ma nuit, reste à l'euro. Les Argentins rêvent d'hier, et puis des chants du Maldoro. Je marche seul dans Buenos Aires. Je ne dirai jamais qui je suis. De toutes mes vies, la dernière est la seule qui me donne envie de marcher seul dans Buenos Aires. De marcher seul dans Buenos Aires.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Du sang, des larmes et parfois encore d'autres fluides. Oh. On trouve beaucoup de choses sur la moquette du studio 611 quand vient l'heure de nettoyer après le Zoom Zoom Test. Et aujourd'hui, les agents d'entretien de Radio France vont avoir du boulot, car je l'annonce, ça va être une boucherie. Déjà que sur des thèmes que vous connaissez un peu, vous peinez à briller. Alors, sur les sports de combat de l'extrême, on peut assister à un double chaos. Manon, Quentin, top. Pardon. Moi, je connais toutes les réponses aux questions que je pose.
Ah, forcément.
Pour ne pas vous couvrir de ridicule d'emblée devant notre invité, spécialiste du MMA, une question extrêmement facile. Quelle belle promesse, empreinte de poésie, Booba fait-il à Caris à la fin de sa vidéo où il lui propose un octogone sans règles. Il lui promet de rendre hommage à ses aïeux en se recueillant pudiquement sur leur sépulture ou de baiser ses morts et son cercueil.
B.
Bah oui. Bonne réponse de Manon Mariani.
Je vais te baiser tes morts et leur cercueil, sale fils de chien.
Et Dieu sait que c'est techniquement très compliqué de baiser un cercueil. Déjà qu'une écharde, ça fait mal dans la main. Ce monsieur Booba est décidément très courageux.
Et puis c'est interdit.
Alors, c'est complètement interdit. Alors, vous le savez, ce fameux octogone, on l'a dit, n'a jamais eu lieu. Pas plus d'ailleurs que celui que Cyril Lacarrière avait proposé à Booba après que ce dernier lui a fait l'affront de ne pas répondre à son DM sur Twitter. Mais d'autres combats de MMA, s'ils ont eu lieu, n'ont en revanche pas duré très longtemps. D'après vous, combien a duré le combat le plus court de l'histoire? Trois possibilités. Moins qu'un quickie avec Quentin dans les toilettes du Bayokos. Plus qu'un quickie avec Quentin, mais moins de 3 minutes quand même. Ou plus qu'un quickie avec Quentin, mais pas plus de 10 secondes non plus.
B. C'est moins de 3 minutes,
pas plus de 10 secondes.
Bonne réponse de je sais pas, les questions étaient bizarrement formulées. Je vais donner un point à chacun. Une chose est sûre, le plus court combat de MMA a duré 1 seconde et 10 centièmes.
Ah ouais.
C'est allé très vite. Un petit pied-bouche. Pied-bouche d'entrée de jeu, retour à la maison. Troisième question. Pied-bouche. Attention, top. En 2021, au Brésil, deux hommes se sont affrontés sur un ring pour régler leurs différends. Qui étaient ces deux hommes? Deux footballeurs? Deux prêtres? Deux politiques?
C'est politique. Politique, ce serait super.
Vous voyez des prêtres,
ouais. C'est vraiment
hop,
le film,
on enlève la soutane.
Et allez, c'est
et
bon, c'est
va.
Parti, quoi.
Non, c'était des politiques. Réponse C. Et oui, quand le dialogue ne passe plus, qu'on n'arrive pas à convaincre l'autre, comme dirait l'autre, il reste une solution démocratique, l'octogone. Le match opposait Simão Perrotto, un maire de 39 ans, à l'ancien conseiller municipal Erino Alves da Silva, âgé de 45 ans. Les deux hommes se déchiraient depuis des mois autour d'un projet de parc aquatique. Ça s'insultait sur Twitter. Le différend a donc été intelligemment réglé à coups de mandale. Le maire a pris une telle raclée que sa mâchoire est tombée, pouvait-on lire le lendemain dans la presse locale.
En France, ça serait
formidable. Attention, top. On reste au Brésil pour zoomer un peu plus sur le Vale Tudo, ce sport dont nous parlait Cyril en début d'émission. Un sport où tout est permis, ou presque. Justement, c'est sur ce presque que j'aimerais vous interroger. Dans la liste suivante, à vous de me dire le seul truc qui n'est pas interdit dans le Vale Tudo. Un doigt dans les yeux, un doigt dans les fesses, un coup à la colonne vertébrale ou un coup de boule.
Vertébrale. Colonne vertébrale.
Oh, j'ai envie... Non. Coup de boule.
Boule. Précisez votre pensée.
Un coup de boule.
Bonne réponse de Manon Mariani. Réponse D. Le coup de boule est parfaitement légal durant un match de Vale Tudo. En revanche, et ça, notez-le, c'est important si vous prenez une licence, ni coup à la colonne vertébrale, ni doigt dans les yeux, ni doigt dans les fesses.
Sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être...
C'est éliminatoire dans le Vale Tudo. Enfin, attention, top, je vous donne des noms de sports de combat encore plus cinglés que le MMA. Vous me dites si ça existe ou pas. Vrai sport, faux sport, le béour.
Vrai.
Faux. Béour.
Vous avez répondu au hasard, Manon?
Oui.
Ah, vous aviez l'air de connaître.
Ah non, pas du tout.
Bonne réponse. Oui, venu de Russie, ce qui est toujours un gage de finesse, le béour ou full contact médiéval se dispute en 1 contre 1, 3 contre 3 ou, comme une soirée chemsex chez Manon, à 21 contre 21. Les types se déguisent en chevaliers du Moyen-Âge, ça vous rappelle vos soirées. Les types se déguisent en chevaliers et se foutent joyeusement sur la gueule.
Oh là là.
quelle famille appartient cette écu?
Bon, un lion qui chevauche une moto, c'est le saut de la carrière. Vrai sport, faux sport, le Big Chinese Pro Wrestling.
Vrai.
Faux, ça c'est faux.
Big Chinese Pro.
C'est faux.
Ah.
Mais en revanche, le Big Japan Pro Wrestling existe. Est-ce à dire que vous confondez la Chine et le Japon? J'en ai bien peur.
Non, mais...
Vrai sport donc et beau sport puisqu'il consiste en un subtil mélange de catch et de combat de rue. Les combattants peuvent utiliser des objets comme des bouteilles de verre et même des battes de baseball.
Sympa.
La brandaille.
Vrai.
Pas de vrai, pas d'api, et deux combattants qui essayent de s'étouffer à coups de brandade
mais
de
morue. Sérieux.
Non,
ça n'existe pas.
Vrai, ça existe, allez.
Faux sport, en tout cas pas homologué en France.
Bah, évidemment.
Un seul combat aurait eu lieu une fois après un fameux dîner du gras de Cyril.
Oh.
Enfin, attention, la brancaille.
Oui, ça, ça existe.
Pas de règles, pas d'api, et deux combattants qui essayent de s'étouffer à coups de caille.
Oui, ça, c'est vrai, ça. C'est vrai.
Vrai sport, même si c'est pas exactement ce que je viens de décrire. La brancaille est une discipline française. Sachez-le, la brancaille. Tous les coups sont permis, que ce soit les coups de coude, de genoux, de tête ou même les étranglements. La brancaille a été interdite après la Seconde Guerre mondiale, mais elle se pratiquerait toujours clandestinement. Victoire de Quentin, lui.
Allez.
Non mais faut arrêter avec
vulgarité,
ça, hein, vraiment.
Quoi?
Non.
Merci
faut
à tous.
Même Bouba le fait pas.
Merci à tous.
Faudrait avoir le triomphe quand même élégant.
Ouais, oh là là.
Élégant, réel.
Ah oui,
pas.
Toujours. Bon, toujours.
Guillaume Dussault. Journaliste spécialisé dans les sports de combat et toujours notre juge de paix cet après-midi, on zoome sur le MMA. Comment ce sport s'organise aujourd'hui en France? Déjà, est-ce qu'il y a une fédération? Parce qu'on a compris qu'au niveau professionnel, c'était organisé, mais est-ce qu'il y a une fédé amateur? On s'inscrit, comment ça se passe?
Eh oui, il y a une fédération, c'est la FMMAF, et donc, qui est sous l'égide de la fédération de boxe, et c'est eux qui s'occupent de tous les événements, que ce soit l'UFC ou même des événements qui vont être à niveau amateur, comme par exemple, il peut y en avoir un peu partout en France. J'organise d'ailleurs un événement le 31 mars, événement amateur de MMA, où en gros, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, il y a cette volonté de pousser les combats amateurs pour qu'ensuite les athlètes, comme dans d'autres pays aujourd'hui, comme en boxe par exemple, ou en boxe, si vous voulez, vous faites votre carrière amateur, ensuite vous allez chez les professionnels, vous êtes déjà prêt, vous ne découvrez pas le MMA un petit peu sur le tas. Aujourd'hui, la volonté de la FMMAF, c'est ça, c'est de pousser les combats amateurs pour qu'ensuite on passe pro et qu'on ait toutes les armes pour performer, à l'international également.
Manon.
J'ai l'impression qu'il y a une forte mixité sociale dans le sport, que c'est vraiment ouvert à tout le monde, un peu comme le foot.
Ouais, complètement, ouais. Parce que c'est ce qu'on disait précédemment avant le début de l'émission, tout le monde peut faire du MMA, la seule vraie chose c'est soit vous allez en faire comme un sport, on va dire à niveau amateur, et quand je dis amateur c'est hors combat même, ouais. Juste pour vous entraîner plusieurs fois par semaine, soit vous allez faire de la compétition. À partir du moment où vous faites de la compétition, tous les athlètes, tous ceux qui font du MMA et même contester d'autres sports le disent, c'est le sport le plus difficile au monde, parce qu'en MMA, il faut pas juste être bon en boxe, pas juste être bon en lutte, il faut être bon partout. Mmh. Et faut tout sacrifier pour être bon dans cette discipline.
Mais on peut en faire partout. On met des tapis de gym dans un gymnase, comme j'ai fait hier soir, et il n'y a pas besoin de cage, on peut quand même pratiquer. Ça ressemble à quoi un entraînement comme ça? Est-ce que les enfants, par exemple, peuvent venir? À partir de quel âge on peut commencer?
Il n'y a pas forcément d'âge pour commencer. Dans quasiment toutes les salles aujourd'hui proposent du MMA Kids, mais quand c'est MMA Kids, ce qui est important, c'est qu'il n'y a bien évidemment pas de coups à la tête, parce que c'est là où il y a le danger. Parce que quand vous faites du judo, moi j'ai commencé le judo, j'étais tout petit, il n'y a pas de risque pour les enfants. Et là, c'est ce qu'on apprend aux petits qui se mettent à faire du MMA, c'est vous allez avoir toutes les disciplines sans les coups à la tête, parce que là, évidemment, jusqu'à un certain âge, ça peut être très dangereux.
Et est-ce qu'il y aurait bientôt un centre de formation pour former nos futurs stars du MMA? Ça existe déjà peut-être?
Oui, il y a pas mal de salles qui travaillent à ça, et la plus grosse salle en France s'appelle le MMA Factory, c'est là que s'entraîne Cyril Gane, et ils ont justement déjà des programmes d'entraînement qui sont Horizon 2025, Horizon 2035, où justement eux ils ont vraiment développé le MMA pour les petits et pour détecter ces jeunes talents afin de faire comme ce qui se passe aux États-Unis. Et avoir justement accompagné les athlètes du début de leur carrière jusqu'au sommet de l'UFC.
Quand je vous écoute parler et nous raconter comment fonctionne le MMA, toutes ces disciplines qui s'entremêlent dans ce sport, moi je pense à Teddy Riner, que j'ai eu la chance de recevoir et qui expliquait que lui petit, il savait pas quoi faire parce qu'il était fort dans tous les sports, il s'intéressait à tous les sports, donc ça a été le judo parce qu'il était peut-être encore plus exceptionnel en judo qu'ailleurs, mais aujourd'hui, si le MMA avait existé à cette époque-là, peut-être que Teddy Riner serait le champion absolu de MMA en fait.
Évidemment. On a tous rêvé, en tout cas les fans français, de voir Teddy Riner en MMA, parce que l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très fort en judo et que justement, tout ça, il l'a déjà. Après, bon, ce qui est important de dire, c'est qu'à l'UFC, il y a une limite de poids, c'est les poids lourds, c'est jusqu'à 120 kilos. Et Teddy Riner, poids de forme, c'est 130 kilos.
Il est un peu au-dessus. Mais s'il maigrit un peu, il pourrait gagner 100 millions facile.
Facile, je ne sais pas.
Non, facile,
je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant.
On a parlé des salaires mirifique de certains champions de MMA, mais quid du combattant de MMA qui n'est pas encore une star mondiale? Est-ce qu'on gagne bien sa vie avec le MMA? Est-ce qu'on gagne tout simplement sa vie en étant un professionnel du MMA aujourd'hui en France?
Oui, complètement. Alors, ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est comme si vous êtes joueur de foot, si vous jouez au niveau district, vous n'allez pas gagner la même chose que les joueurs de Ligue 1, mais par exemple, Arès, qui est une organisation de MMA en France, qui est la plus grosse organisation en France, il y a des athlètes qui vont faire leur début là-bas, qui vont être les frères Younouzov, par exemple. Eux, avec les bonus de combat, ou parce qu'ils sont spectaculaires, ils ont 18 ans, c'est leur deuxième combat professionnel, et ils vont repartir avec 15 000 euros, l'équivalent de 15 000 euros, et comme ils combattent tous les mois, tous les 2-3 mois, là, je crois qu'on avait fait les calculs, à 18 ans, pour ses trois premiers combats professionnels, il s'est déjà fait plus de 30 000 euros. Donc, c'est pas mal quand
ça, ça
on
paye
débute
mieux que les cafés Richard, Quentin. Hein,
oui,
plutôt que les cafés Richard, vous auriez dû faire du MMA. Manon.
Justement, Quentin, on parlait tout à l'heure dans son micro-trottoir, mais et les femmes dans tout ça, est-ce qu'elles sont adeptes de MMA? Est-ce qu'elles en font aussi pour se défendre, par exemple?
Eh bien, oui, et c'est toute la beauté du MMA. C'est que, en MMA, par exemple, que vous soyez à l'UFC ou dans des événements comme Arès ou ce que moi je vais faire, il y a toujours des femmes qui combattent. Il n'y a pas des événements où il n'y a que des femmes et des événements où il n'y a que des hommes.
C'est toujours mixte.
Exactement. Et ce qui veut dire que les femmes ont, une super visibilité et deux, les femmes sont autant payées que les hommes. Quand je dis sont autant payées que les hommes, par exemple à l'UFC, le SAD, donc, qui est l'organisation référente de MMA, c'est 10 000 euros au minimum, 10 000 plus 10 000, 10 000 pour combattre et 10 000 si on gagne en bonus, et tout le monde à ce bonus-là, qu'on soit femme ou homme. Et ensuite, il y a régulièrement des événements à l'UFC où il n'y a qu'un seul combat de femmes, et le combat star, c'est le combat des femmes.
Ah
il y a 12 combats sur la soirée, un seul combat de femmes, c'est celui-là qui est sur le poster. Ouais.
Donc, de ce côté-là, ils sont pionniers sur l'égalité homme-femme. Qu'est-ce qui fait? C'est encore une philosophie de l'UFC, ça?
Enfin, c'est... Alors, c'est pas, là, encore une fois, c'est le côté business. C'est, il y a, entre 80 et 90% de l'audience qui est masculine à l'UFC, sauf que les femmes qui font de l'UFC, du MMA, sont extrêmement sportives, plutôt assez belles.
D'accord. Donc, ils se sont dit, ça va être attirant d'avoir une offre.
Exactement. Et donc, les gens
c'est
regardent.
C'est de la misogynie, en fait.
sauf que, en attendant, toutes les femmes qui font des sports de combat et qui se lancent dans le MMA, peuvent performer. Il n'y a pas du tout de barrière financière. Et deux, enfin, je veux dire, avant qu'il y ait Conor McGregor, la plus grande star, c'était Ronda Rousey, c'était une femme.
Vous écoutez France Inter, d'aucuns disent qu'il est 16h43, d'autres qu'il est 16h47. La vérité est probablement entre les deux.
Vous n'avez pas l'heure.
Je n'ai pas pris ma montre aujourd'hui. Dans quelques instants, ce métier, vous savez, est fait de renvoi d'ascenseur. Et sachant que j'ai lancé hier soir une standing ovation à son one-man show à la scène libre, le moins qu'il puisse faire, c'est de me livrer une chronique parfaite. Je serai intraitable aujourd'hui avec l'excellent Yann Marguet. Mais d'abord, elle aussi est excellente, sauf évidemment au volant d'une Mercedes boîte manuelle sur les pentes d'une colline en Toscane. Vous avez eu des nouvelles des Belges, Manon? Vous avez échangé vos numéros, ça crée des liens.
J'aurais dû leur donner. Hein. Ouais, ils m'ont sauvé la mise, hein, quand même.
C'est clair, on les remercie. Ouais. Alors maintenant, votre truc à vous, c'est les réseaux sociaux. Et là, votre expertise fait une vraie différence. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un acteur devenu une véritable égérie des réseaux sociaux.
Il a 47 ans, une moustache, beaucoup de sens de l'humour et il est surnommé le daddy d'Internet. Son nom, Pedro Pascal. L'acteur cartonne actuellement dans deux séries. The Last of Us sur HBO, la série dystopique inspirée du jeu vidéo du même nom. Et dans The Mandalorian saison 3 sur Disney+, spin-off de Star Wars qui a aussi révélé un baby Yoda trop mignon. Et ces deux rôles ont totalement conquis le cœur des téléspectateurs qui se sont pris d'amour pour Pedro Pascal sur les réseaux. Sur Insta, Twitter, Facebook, la tête de l'acteur est partout. Sur TikTok, le hashtag Pedro Pascal cumule même plus de 6,5 milliards de vues. Il surpasse même Brad Pitt, et oui. On y voit beaucoup de montages de l'acteur, ses meilleurs moments pendant ses interviews, ses moments tristes dans ses séries, ou encore des compilations de moments où il se surnomme lui-même Daddy.
But Daddy is a state of mind, you know what I'm saying? I'm your daddy. Am I the daddiest daddy?
Yep. I am your cool slutty daddy.
Mais alors pourquoi le terme daddy revient autant?
Alors en général, c'est un terme qui sexualise un homme, hein, employé beaucoup dans le porno. Mais pour Pedro Pascal, il a une autre intonation. En fait, l'acteur interprète deux personnages similaires dans The Last of Us et dans The Mandalorian. Des personnages qui doivent protéger une autre personne comme un père de substitution, d'où le terme daddy. Dans The Last of Us, il protège et apprend à aimer la jeune orpheline Ellie. Et dans The Mandalorian, c'est pareil, mais avec Baby Yoda. Et l'air de rien, ce sont des rôles qui changent, qui représentent la masculinité sous un autre angle, d'une façon touchante sans être bourré de testostérone. Ces personnages ont des failles, se montrent vulnérables et c'est ça qui plaît. Pareil pour son rôle dans Game of Thrones qu'il a fait connaître. Il y jouait l'un des premiers personnages ouvertement bisexuels dans la série. Des rôles qui lui ont donc donné un statut différent de la plupart de ses collègues. Une jeune femme le résume plutôt bien dans un tweet.
Une grande partie de la raison pour laquelle Pedro Pascal a un tel attrait est qu'il est un joyeux luron qui aime la communauté LGBTQ et qui modèle la masculinité sous une forme tendre. Alors oui, il est très beau, mais c'est surtout une personne qui semble safe. C'est ça qui est vraiment sexy chez lui.
Mais est-ce qu'il plaît vraiment à tout le monde, ce
oui,
Pedro ?
Oui, Mathieu. Pedro Pascal est devenu une véritable icône intergénérationnelle, icône qui contraste avec certains de ses collègues du même âge, qui se font critiquer, eux, sur les réseaux, notamment sur leur rapport vis-à-vis des femmes, que ce soit Leonardo DiCaprio et ses conquêtes de 30 ans de moins que lui, ou Johnny Depp accusé de violence conjugale. Pedro Pascal, lui, il a une image d'un homme déconstruit à la manière d'un Timothée Chalamet ou d'un Harry Styles. Comme eux, il ose les looks colorés et décalés sur les red carpets, des looks répertoriés sur des comptes Instagram dédié à l'acteur. Il est loin le smoking noir du mâle alpha hétéronormé. Et puis sur les réseaux, ses prises de position en faveur des LGBTQIA+ sont très souvent applaudies. Exemple, quand The Last of Us est attaqué par les homophobes de service, Pedro Pascal lui fait un post sur Instagram avec des drapeaux gays, un post liké près de 2 millions de fois. L'acteur est donc devenu le daddy cool des réseaux sociaux et prouve qu'on n'a pas besoin d'avoir 20 ou 30 ans pour vivre avec son temps, en espérant qu'il serve d'exemple. N'est-ce pas ? Mathieu.
Qu'est-ce que c'est que cette chute, Manon ?
Oui, excusez-moi.
Et c'est dommage, vous faites une belle chronique, oui, ou la salopée oui, sur la
vrai,
fin.
C'est vrai
que c'est la période de l'année où on renouvelle les contrats.
Oh, mais non, mais vous êtes un peu notre daddy cool.
Vous venez de dire qu'il avait 47 ans, Pedro Pascal, ça n'a rien à voir, j'ai 40 ans.
C'est vrai, une autre génération.
Une autre génération, je ne sais pas, on ne m'appelle pas daddy, moi.
Ça va, vous pouvez être un daddy cool aussi d'Internet.
Un daddy cool, ça m'appelle une chanson de ma jeunesse, justement.
Ça, c'est pas bon signe.
Ça y est, je me suis tiré une balle dans le pied.
Si, on aime bien.
Justement, écoutez un peu de musique, mais pas daddy cool. Une musique plus récente, Slow Tie, Sooner sur Inter. No money, no pot to piss, but I fuck to give, ever got one. I'm riding shotgun in a 306, see you eat up big, spitting love drunk. Sometimes I wanna kill myself, cause failure's never been an option. Whilst living in the real world, I feel like I'm a real person. So tell me, did you say something, did you say something, make paranoid? It's like I ain't got just misunderstood church boy, and I always been a happy boy. You even work hard for it, are you jacked up in the gym of steroids? I couldn't deal with hard things, so I put them in a pile, it's worthwhile. No heart from a hard drive, gloss I cry and I never know what's in store. Every time they talk, they talk, they talk, and listening becomes unsure. I wanna press reset, I wanna press restore, I wanna swim, get drenched deep, holy water, baptized in the blood of my enemies. I just shrug and breathe heavily. Show me no more diving when I'm out of my depth. Tie me up and leave me when I'm holding my breath. Oh, what a waste of time, what a waste of time. Oh, the best of times. Question everything, but fuck it, I'm free. Dragging my feet, I sweep the dirt underneath. My Persian rug, I'm trusting no one but me. You are what you eat. I must be nothing. Oh, we all get sad sometimes. So wishbone with no backbone. Phone distracts me from my life. Make plans but I'm bound to cancel. Roaming data don't provide a tariff with no hassle. Roaming data don't provide a tariff with no hassle. Oh, we all get sad sometimes. It's a wishbone with no backbone. Phone distracts me from my life. Make plans but I'm bound to cancel. Roaming data don't provide a tariff with no hassle. Roaming data don't provide a tariff with no hassle. Scold me no more diving when I'm out of my depth. Tie me up and leave me when I'm holding my breath. Oh, what a waste of time, what a waste of time. Low at the best of times. Low at the best of times. Low at the best of times. Low at the best of times.
Zoom zoom zen.
Zoom Zoom Zen spécial MMA cet après-midi continue et on reçoit quelqu'un qui a été brillant hier soir sur la scène, la scène libre. Je l'ai applaudi, mais je l'ai applaudi pendant un quart d'heure.
Et
vraiment, à l'applaudimètre, c'était exceptionnel.
Vous avez préféré quel moment ?
J'ai préféré le début, le milieu et puis alors la fin. L'apothéose, le grand final du spectacle et les 12 rappels. Est-ce qu'il sera aussi bon dans sa chronique ? C'est Yann Marguet. Bonjour Yann.
Bonjour Mathieu. Comme vous le disiez très justement, mon physique, pas plus tard que ces 30
30 dernières années. Le sport n'est pas ma passion. Voilà, bon. C'est donc avec un mélange de curiosité et de... Ouais. Bon, allez, je suis parti à la découverte du MMA. Et alors, qu'est-ce que j'en ai appris des choses? Déjà, le Muay Thai, c'est pas un cocktail. Alors ça, première nouvelle. Alors, plus important, les arts martiaux mixtes, c'est pas un sumo en slip tradi qui combat un fakir indien au corps élastique devant un bateau, comme dans Street Fighter. Non, c'est un vrai sport, avec des règles et tout. Bon, alors, pour ma défense, ça, c'est maintenant. C'est vrai qu'au début, il semblerait qu'on pouvait vraiment assister à des combats de type Alain Chamfort versus un minotaure cégétiste. Mais avec la médiatisation, on a très vite commencé à baliser le truc pour sauver ce sport. Bah oui, parce que ça, on le lit dans les journaux. Le MMA, c'est un sport qui s'est beaucoup fait taper dessus. C'est cocasse. Alors, j'aimerais citer par exemple le combattant Karl Amoussou, dit Psycho, hein, le zinzin en anglais, qui confie à l'équipe, je ne comprends pas la méfiance actuelle à l'égard de ce sport. Alors, même si on a envie de lui répondre, écoute Carlo, commence peut-être par ne pas te faire surnommer le taré, et on en reparle, il est vrai que le MMA a longtemps souffert d'une image de sport dangereux. Alors que ça l'est pas. Ils vous le disent les mecs, en tout cas pas plus que la boxe anglaise ou le rugby. Oui, donc plus que le Uno quand même. Mais comme le dit le médecin de boxe Alain Mazo, à nouveau dans l'équipe, c'est surtout l'entraînement qu'il faut encadrer. Alors après, libre à chacun et chacune de faire confiance ou pas à un médecin qui s'appelle Mazo. Mais bon, c'est pas là et maintenant qu'on va régler le débat. Hein, on peut tout au plus se demander si ce qui se passe dans l'octogone est beaucoup plus violent que ce qui se passe en ce moment dans l'hexagone.
Oh, ça dénonce.
Ouh, je m'en sors bien là. Non, pas se les mettre à dos non plus. On évalue quand même à 50 000 les pratiquants de MMA en France, donc on va pas se les exciter pour se prendre une chasse en pleine rue. Déjà que c'est souvent frustrant de suivre le MMA, hein, des semaines de hype sur un combat, la sauce qui monte, le jour J, tes potes qui arrivent, tu restes éveillé jusqu'à 5h du mat pour le direct. Début du combat, tu as juste cherché les dips à la cuisine, tu reviens, j'ai raté quoi? Ah bah Cyril Gane est décédé. Et bah dis donc, à 2 minutes le combat, t'as meilleur temps de pas envie de pisser. Hein. Bon, si ça se trouve, c'est intéressant quand même, vu qu'il débriefe aussi après pendant 8h. Mais de toute façon, moi je vous dis, j'ai essayé de regarder, je ne comprends rien, les termes. Là, une amenée au sol, il va chercher la clé. Bon, à ce compte-là, je regarde Fort Boyard. Il y a tout autant de muscles avec Olivier Mine. Puis c'est quand même le seul endroit sur Terre où on peut voir Boudère affronter un serpent. Si ça, c'est pas du free fight. Non, mais moi, je m'étais fait un peu hypé quand même. Je m'étais fait un peu hypé par l'UFC il y a quelques années avec l'autre con de McGregor. Là. Qu'est-ce qu'il est con, lui, dis donc. Oh, c'est dur, hein. Hein, déjà, Connor, on dirait le dieu des cons. Connor, fils de Connos. Héritier du trône de Débilia, avec son nom tatoué sur le bide, là, tu veux te faire tatouer quoi? Mon nom! Putain, achète une gourmette ou un bol breton, ça nous fait chier, quoi. Putain, j'hésite presque à le challenger, tellement il est con. Allez, chercher une clé de cerveau, quoi. Alors, j'aimerais terminer avec une anecdote, celle d'un ami fan de MMA, à qui la copine avait acheté des billets pour un événement. Alors, ils y vont ensemble, hein. Lui est complètement galvanisé. Il y a 8 combats d'affilée. Il est en admiration totale. Il réfléchit à la vie de ces athlètes de haut niveau qui sacrifient tant de choses pour leur art, pour si peu d'argent et au péril de leur santé. Et au moment où son émerveillement est à son paroxysme, pendant le principal combat de la soirée, voici les mots de sa meuf, les yeux dans le vague. Ouais. C'est quand même des débiles, hein. Alors, libre à chacun et chacune de choisir son camp, mais faut avouer que quand on ne maîtrise pas les clinches, les takedowns et les spinning backfists, pouvoir encore mettre KO quelqu'un avec une phrase, c'est quand même rassurant.
Merci Yann Marguet. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et ce soir encore au théâtre, on n'arrêtait pas.
Ouais.
Est-ce que ça sera aussi bien qu'hier? Je ne sais pas.
Je pense
mais
pas.
Allez-y quand même.
Mais merci pour cette
merci,
pub.
Merci Guillaume Dussault. Je rappelle que vous êtes le fondateur, rédacteur en chef du média La Sueur, qui existe aussi en podcast. Et il dit beaucoup de conneries, Yann Marguet, mais c'est quoi le spinning backfist? Ça existe vraiment?
Ça existe vraiment, c'est un coup de poing retourné.
Un coup de poing retourné?
Un coup de poing retourné.
Ah bah voilà, c'est plus simple en français.
C'est assez efficace.
On essaiera en antenne. Est-ce que vous pensez que les sports de combat manquent encore de reconnaissance en France et que peut-être le MMA, donc, si on se projette dans 10 ans, sera le sport roi?
Oui, alors ça a déjà dépassé la boxe en France. Je ne sais pas si ça dépassera le football. Je pense que c'est impossible de dépasser le football en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que le MMA aujourd'hui, comme la boxe, l'essentiel du marché, c'est aux États-Unis. Donc la question n'est pas vraiment là, parce que les athlètes, dès qu'ils deviennent connus,
ils partent
à Las Vegas.
Merci à vous, merci à tous. Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière, Étienne Bertin était à la réalisation, Céline Guéribi à la technique. On salue nos attachés de production, Amel Caldi, Alexia Lacour et notre stagiaire Raphaël Canzan qui m'a dit: si tu écris une fois de plus mon prénom avec un F, je finis mon stage chez Charline. Zoom Zoom Zen revient demain en best-of et dès lundi, évidemment, en direct. Alors à lundi, 16h. Sinon, pied-bouche.